Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Quelle société américaine sous Trump? À partir d'aujourd'hui, l'Amérique va-t-elle ériger deux sociétés dos à dos qui ne se parlent plus mais vont se combattre sans relâche entre une marche des femmes qui s'annonce très suivie demain contre le sexisme de l'équipe Trump et la fierté de cette Amérique que l'on disait silencieuse d'avoir enfin un président qui va nettoyer Washington, pour reprendre le terme de certains électeurs, et construire le mur anti-migrants, sans parler de ces brouilles à l'intérieur même de familles américaines qui se déchirent aussi bien sur l'aide sociale, sur les armes, sur l'avortement ou les musulmans. Bref, l'Amérique est-elle en train d'écrire un scénario aussi binaire que certains de ses films? La revanche de l'homme blanc peu éduqué contre les élites multiculturelles éclairées va-t-elle avoir lieu? On va en discuter avec nos invités. Sébastien Maure, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste des États-Unis et tout particulièrement des médias conservateurs. Nous serons également en ligne avec Guillaume Debray, qui est journaliste à TF1, qui a publié Washington, comment l'argent a ruiné la démocratie américaine. Bonjour Guillaume Debray.
Bonjour.
Également dans le studio, Clara Wright, jeune journaliste en fin d'études. Vous venez de passer 6 mois dans le Missouri, c'est bien ça Clara Wright?
4 mois.
4 mois à l'Université d'État du Missouri. Hein.
Oui.
Une région rurale, républicaine, où les tensions avec la communauté afro-américaine sont particulièrement vives dans l'université où vous séjourniez dans l'école de journalisme, bien que les étudiants noirs soient largement sous-représentés.
Donc oui, il y a 7% d'étudiants africains-américains contre 77% d'étudiants blancs. Et il y a un certain malaise, mais ce qui est bien dans cette université-là, c'est qu'au moins il est exprimé et que les choses bougent.
Cerise Maréchaux également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous collaborez également à RFI tout comme Clara. Vous avez séjourné pour des reportages sur la société américaine ces derniers mois à Austin, au Texas, à Chicago, à New York. Autant dire des bastions progressistes et démocrates. Et quant à vous les voisins, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir en nous appelant au 33 1 84 22 71 71 et tous vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Cerise Maréchaux, vous avez assisté à Chicago, juste après les résultats de l'élection présidentielle, à un festival de radio qui réunissait quasiment que des journalistes américains. Il y avait bien sûr de la sidération, de la culpabilité, mais aussi un questionnement.
Un vrai questionnement, oui, on était plus de 300 journalistes et cette question était omniprésente. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on n'a pas pu voir l'arrivée de Trump au pouvoir? Comment notre couverture médiatique, quelle responsabilité notre couverture médiatique a eue dans l'élection de Trump? Est-ce qu'on n'est pas assez en contact avec la société américaine? Est-ce qu'on fait mal notre travail? Est-ce qu'on n'est pas assez en contact avec les médias locaux? Est-ce que nous-mêmes, on manque de diversité dans nos rangs? À quel point nous
de
sommes...
De diversité politique, donc, là. Hein.
De diversité politique et ethnique.
Sébastien, est-ce que depuis l'élection américaine, ce que les médias américains nous donnent à voir de l'Amérique a changé ou pas? Est-ce que...
Je crois qu'on s'intéresse effectivement de façon plus sérieuse à cet électorat qui a été un petit peu, je pense, caricaturé. C'est-à-dire que l'erreur des médias américains et l'erreur de la campagne de Clinton, c'est d'avoir considéré que les électeurs potentiels de Trump étaient formés une espèce de masse homogène qui adhérait uniformément à la suprématie blanche, au sexisme, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a des gens qui sont en réelle souffrance, notamment dans les États du Midwest industriel. Et c'est ces gens-là qui n'ont pas, à mon avis, qui n'ont pas eu voix au chapitre et qui n'ont pas fait l'objet d'une couverture médiatique équitable. Il y a des gens qui ont des revendications tout à fait légitimes. Par exemple, les gens de la classe moyenne inférieure blanche, les ouvriers peu qualifiés, qui, par exemple, entre les hommes entre 45 et 55 ans dans cette catégorie socio-professionnelle ont un taux de mortalité qui est supérieur
au reste
de la population et même au reste des pays européens. Donc je pense que ça pose quand même question, et le fait d'avoir dépeint cet électorat comme étant des pitoyables, donc des deplorables, comme l'a dit Hillary Clinton, était certainement une erreur et à mon avis est significatif de la façon dont les médias ont couvert l'électorat de Trump.
Guillaume Debray, est-ce que pour vous on peut parler désormais aujourd'hui d'une Amérique divisée sur sa propre identité finalement?
Absolument, mais elle est divisée depuis très longtemps, cette Amérique. de par le système électoral, elle crée deux Amériques qui, depuis 20 ans, ne se parlent plus, ne collaborent plus. L'essence même du pouvoir à Washington, qui est le Sénat et la Chambre des représentants, le Congrès, il est basé sur justement la possibilité de faire des alliances. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, il n'y a plus d'alliance politique à Washington. Le Parti républicain et le Parti démocrate se sont polarisés. L'un est allé très à gauche, l'autre très à droite. Et donc il n'y a plus de centre politique. Et il exprime une réalité sociologique, une réalité politique dans l'Amérique profonde, mais aussi dans l'Amérique urbaine. C'est qu'aujourd'hui, on a deux Amériques qui sont polarisées sur tous les sujets de société très importants.
Oui. Alors justement, sur ces sujets de société, Donald Trump a beaucoup dit qu'il voulait rendre la confiance aux Américains. Pour vous, qu'est-ce que cela peut signifier ? Est-ce qu'on est dans l'irrationnel ? Est-ce qu'on est dans un plan politique pour l'Amérique profonde, Sébastien Maure ?
Alors, je crois qu'effectivement, il y a une grande partie du phénomène Trump vient plus que des positions qu'il défend, de ce qu'il incarne, du personnage qu'il a réussi à se construire. Parce qu'il faut oublier que c'est effectivement quelqu'un qui vient du milieu des affaires, mais qui vient aussi du milieu des médias, qui vient d'une émission de télé-réalité dans laquelle il se mettait lui-même en scène en tant qu'homme d'affaires. Donc il y a un brouillage entre la fiction et la réalité qui lui permet en fait de créer une sorte de fascination pour sa personne. Et effectivement, ce qu'on retrouve dans les témoignages des gens qui ont voté pour lui quand on les interroge sur leurs attentes, c'est effectivement une très très grande confiance dans sa possibilité de redresser le pays et d'améliorer leur quotidien, indépendamment des propositions qu'il peut faire, indépendamment même des contraintes qu'ils peuvent poser, des contraintes institutionnelles et logistiques qui peuvent peser sur son action.
Tout en étant lucide sur la dureté aujourd'hui du marché de l'emploi aux États-Unis, les Américains ne se voilent pas la face là-dessus, Guillaume Debray. Est-ce que Trump aujourd'hui incarne vraiment la puissance retrouvée d'une population masculine blanche, dont vous disiez d'ailleurs, Sébastien Maure, qu'elle était en proie à une surmortalité dans certaines classes sociales, en tout cas. Pour vous, Guillaume Debray ?
Alors, c'est une partie de son électorat. Mais je crois que fondamentalement, ce qu'il représente, ça a été ce rejet de Washington. Vous savez, il faut bien comprendre pour les Français. Les Américains ont le même rapport à Washington que les Français ont à Bruxelles. Washington, c'est une administration fédérale, lointaine, qui n'incarne pas le pouvoir local. Et les Américains sont extrêmement crispés, ont un rapport très crispé avec Washington. Et Donald Trump a donné une voix à ces Américains qui estiment que l'establishment politique, l'establishment financier, l'establishment médiatique, qui est incarné aussi par Washington, ne représente plus leurs aspirations. Et Hillary Clinton, sa grande erreur, a été justement d'incarner cet establishment politique. Et donc les Américains ont rejeté ça. Mais c'est un mouvement de fond depuis 20 ans. Quant à revenir sur effectivement ses accents racistes, il a capitalisé effectivement sur la paupérisation de la petite classe moyenne blanche. Mais je vous rappelle quand même que plus de minorités visibles, les Afro-Américains, les Hispaniques, ont voté pour Donald Trump cette année que pour Mitt Romney il y a 4 ans.
Clara Wright, alors vous avez travaillé, étudié dans cette université du Missouri, qui est la plus vieille école de journalisme du pays, qui travaille, qui a la particularité dans cet état rural républicain de travailler avec les petites rédactions locales. Donc là, pour le coup, en principe, en connexion avec cette Amérique profonde.
Mais en fait, justement, c'est le sentiment que j'ai eu au lendemain de l'élection. Enfin, j'étais dans une ville libérale, dans un État républicain. Donc la ville est libérale parce que souvent dans les villes américaines,
parce que c'est une ville universitaire,
voilà, ouais, quand il y a une université.
Columbia en l'occurrence, hein, voilà, qui n'est pas très loin de Saint-Louis.
Qui est à 2 heures de Saint-Louis en voiture. Mais en fait, il n'y a pas eu ces larges protestations comme on a pu voir dans le pays, ou cette indignation. Enfin, bien sûr, les étudiants qui avaient voté démocrate étaient tristes. Mais cette Amérique qu'on appelle profonde et qui est censée être invisible et qu'on ne connaissait pas, en fait, les médias locaux, ils la connaissent, puisque ils travaillent avec eux. Et surtout, ils travaillent pour eux. Enfin, c'est leur audience. Donc il n'y avait pas ce paradoxe qu'on a pu voir dans les autres endroits. Et au-delà de ça, enfin, ça n'a pas empêché l'école de journalisme de l'université du Missouri de se demander comment maintenant faire du journalisme sous Trump, ou comment comment améliorer les choses. Et il y avait aussi toute une réflexion sur justement les médias nationaux et comment ils traitent des news locales. Et il y a quand même un ton très moralisateur par moment dans les... chez les médias nationaux. En tout cas, c'est perçu comme ça. Et par exemple, par rapport au racisme, enfin, les... comment on
qui parle... sont des questions très exacerbées à l'université du Missouri. Hein,
oui, voilà. Mais avec... comment on dit au lecteur ou à un homme politique que ce qu'il dit est raciste? Et en fait, il nous expliquait qu'il ne faut pas lui dire que la personne est raciste, ce qui l'enferme dans un moule et il ne peut plus en sortir, mais lui dire « Ah, ça, cette loi ou alors cet acte, ça, c'est raciste et vous pouvez évoluer parce que... » Ouais. Parce que vous pouvez changer. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une autre approche
psychologique. Ouais.
C'est moins, on vous regarde d'en haut et on vous juge, en fait.
Sébastien Maure, hein, sur justement cette Amérique profonde, c'est divisé entre ces médias locaux, ces médias nationaux, entre Washington, entre cette Amérique-là.
Oui.
Comment vous voyez les choses?
Ben écoute, oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je crois qu'il y a aussi peut-être est-ce qu'il n'y a pas un problème effectivement dans la façon dont les journalistes sont formés? Est-ce que les journalistes sont pas eux-mêmes issus aussi plutôt d'une classe éduquée, de gens qui ont suivi des études supérieures et donc qui finalement cultivent des représentations du monde et des schémas d'interprétation du monde qui font que toute cette partie de la population peut-être leur échappe ou suscite chez eux une forme de rejet ou peut-être effectivement de condescendance. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais ce serait peut-être mon hypothèse sur la...
Alors aujourd'hui, évidemment, Guillaume Degret, tout le monde se demande de qui sera-t-il le président, Donald Trump? Est-ce qu'il sera le président du petit peuple ou le porte-parole des riches? Est-ce qu'on a déjà aujourd'hui quelques éléments de réponse à cette question-là?
Ce qui est sûr, c'est que lui va prétendre et va se positionner pour donner, ce que je dirais, une voix ou sans voix. Ses modes de communication Twitter, c'est le message aux Américains, je n'écoute plus l'establishment médiatique, je ne lis plus le New York Times, et je vais m'adresser à vous directement, parce que de toutes les manières, quoi que je dise, cet establishment médiatique va déformer mes propos. La vraie question, c'est de savoir si Donald Trump va réussir à transformer Washington et transformer la présidence américaine, comme il veut le faire, ou alors que le système, l'establishment, la grande machine bureaucratique, le bureau ovale, va transformer Donald Trump et en faire un président, j'allais dire, ordinaire.
Ou du moins le cadrer. Alors, évidemment, Donald Trump arrive au pouvoir dans un contexte très particulier, de fortes contestations. La marche des femmes annoncée demain à Washington, mais également à Boston, sera-t-elle un premier fait notable, finalement, du divorce de cette Amérique? En tout cas, une marche qui veut s'opposer à la destruction de l'Obamacare, aux menaces qui pèsent sur l'avortement, sur le sexisme en général. Vous l'avez compris, on parle de la société américaine. Quel visage aura-t-elle sous la présidence de Donald Trump?
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Sur cette marche des femmes qui s'annonce très suivie, Cerise Maréchaux par exemple, vous connaissez de nombreuses personnes qui se dirigent déjà vers les villes de Washington, vers Boston, pour aller manifester.
Oui, là dans mes cercles d'amis, des personnes sont déjà en route, elles ne pouvaient pas concevoir de ne pas être présentes, que ce soit à Washington ou à Boston. Après, je voulais revenir sur... Donald Trump donne voix aux sans-voix, et en même temps, dans certaines des politiques annoncées, il y a beaucoup de flancs, il y a une certaine arnaque, parce que, par exemple, il annonce qu'il veut démanteler Obamacare. En fait, ce qu'il déteste le plus dans cette réforme santé, je crois que c'est le fait que le mot Obama y est associé, parce que finalement, il dit que, il veut que le plus d'Américains possible aient accès à une couverture santé. Il dit que la réforme santé Obamacare est trop chère, alors qu'il est prouvé que depuis quelques années, le coût de la santé publique aux États-Unis est en train de baisser, puisque forcément, les Américains sont... Il y a plus de prévention, ils sont mieux couverts, donc ça a un impact sur les coûts globaux. Et il dit il n'y a pas assez de compétition. Moi, je veux augmenter la compétition entre les pourvoyeurs de santé, mais c'est faux. Il y a déjà une compétition qui existe. Donc, en fait, c'est des mots. Il veut mettre cette réforme à la poubelle, principalement parce qu'elle s'appelle Obama et c'est un héritage de Obama, alors qu'il dit il va en fait proposer des choses similaires.
Ouais. Guillaume Debray, vous êtes toujours en ligne avec nous. L'assurance santé qui protège près de 22 millions d'Américains est programmée comme étant vouée à la destruction, mais dans les faits, ça ne sera pas simple, en fait. Hein. Qu'est-ce que ça représente, finalement, ce plan santé pour les électeurs de Trump ?
Alors, ça représente une chose, ça représente l'extension de l'État fédéral. Ça représente l'antithèse de l'esprit américain qui est la responsabilité individuelle. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris en grippe, cette réforme, parce qu'ils ont l'impression que c'est Washington qui décide à tous les Américains, qui décide que tous les Américains doivent s'assurer. En fait, effectivement, si tous les républicains sont d'accord pour des raisons de politique politicienne, parce que ça a crispé beaucoup de choses aux États-Unis de détricoter l'Obamacare, les républicains ne sont absolument pas d'accord sur qu'est-ce qui va le remplacer. Et il faut, de manière législative, de manière politique, que quelque chose la remplace. Notamment, il y a des choses que les Américains aiment bien dans cette réforme. Le fait que en dessous de 26 ans, on puisse rester sur la police d'assurance de ses parents, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Sur le fait que les compagnies d'assurance ne puissent plus vous dire quand vous avez eu un cancer ou des antécédents médicaux, je refuse de vous assurer.
Ou j'augmente.
C'est très populaire. C'est très populaire chez les Américains. Donc là, ils rentrent en terrain miné et on va très vite comprendre si effectivement Donald Trump fait du flan à sa truculence et dit des choses mais qu'il n'y a aucune réalité derrière. Et moi, je pense, j'ai la suspicion, c'est d'ailleurs ce qu'on oublie souvent en France, c'est que le pouvoir névralgique, le pouvoir politique, il n'est pas à la Maison-Blanche aux États-Unis. Il est au Sénat, il est au Congrès. Et c'est le Congrès qui va décider de la politique des États-Unis, moins en termes de politique étrangère, mais surtout en termes politique économique et sociale. Et là, il va devoir négocier avec un establishment républicain qui n'est pas du tout aligné avec sa pensée, et qui est d'ailleurs presque en embuscade, parce qu'il y a beaucoup de républicains qui le détestent.
Sur ce que représente ce plan santé pour les électeurs de Trump, Sébastien Maure, une partie d'entre eux en profite d'ailleurs.
Bien sûr, non, mais c'est effectivement très paradoxal. Il y a le volet idéologique effectivement qui est important parce que la perception c'est que c'est un empiètement de Washington sur mes prérogatives en tant qu'individu, mais en même temps un grand nombre en profite, notamment par le biais de Medicaid, donc qui est la prise en charge par l'État, et notamment ce qu'on voit s'affirmer dans les enquêtes qui ont été menées après l'élection auprès de l'électorat d'Obama auprès de l'électorat de Trump, vous voyez j'ai même du mal à me projeter dans l'après, c'est que certains qui ne bénéficient pas de Medicaid parce qu'ils ont des revenus trop élevés en arrivent à jalouser ceux qui en bénéficient parmi les électeurs de Trump, au prétexte du fait qu'eux n'ont pas à prendre en charge par eux-mêmes leur police d'assurance. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Obamacare, ce n'est pas un système uniformisé. Ça vient modifier différents aspects de l'édifice. Donc, on peut s'assurer par le biais de Medicaid, mais on peut aussi, comme vous l'avez dit, avoir accès à des marchés de l'assurance. Et dans ces cas-là, en fait, ce n'est pas l'État qui vous prend en charge, c'est vous qui allez faire votre marché. Et effectivement, pour certains, il y a l'obligation, des fois, de changer de compagnie d'assurance et de police d'assurance parce que les primes augmentent. Et donc, ce sont ces gens-là qui jalousent, d'une certaine façon, ceux qui pourraient bénéficier de l'aide de l'État, mais qui, en fait, sont dans une situation financière et économique moins enviable.
Et puis, ce qui est majeur, moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai interviewé plusieurs personnes sur cette réforme santé, quand les personnes sont en bonne santé et ont effectivement suffisamment de revenus pour ne pas avoir de subventions de la part de l'État fédéral, ils ont l'impression de payer trop cher. Ils sont scandalisés et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient être solidaires des personnes qui ont moins d'argent. Mais quand les personnes tombent malades ou quand les personnes ont accès à une couverture santé et que ça leur a permis d'aller faire un check-up et que ça leur a permis de réaliser qu'ils avaient une maladie chronique ou un cancer déjà au stade 3 et que grâce à leur couverture santé, ils vont pouvoir se faire soigner. Là, il est hors de question qu'ils soient républicains ou démocrates de renoncer à ce droit.
Guillaume Debray, il nous reste quelques secondes avant de rendre l'antenne pour le flash et de vous remercier parce que vous êtes journaliste à TF1. Évidemment, vous avez du pain sur la planche aujourd'hui, mais sur ce sentiment de concurrence entre les Américains finalement pour l'accès à l'aide sociale.
Oui, c'est un vrai phénomène. Il y a une polarisation, il y a une sorte de concurrence. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect idéologique.
Il nous reste vraiment 5 secondes.
30 secondes. Ce sont le Parti républicain est financé par des grands ensembles qui détestent Obamacare. Ouais.
Merci à vous. Ça sera le mot de la fin pour vous. Bien sûr, les autres invités restent en studio. À tout à l'heure.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Quelle société américaine sous Donald Trump, l'Amérique va-t-elle ériger deux sociétés dos à dos qui ne se parlent plus? Guillaume Debré, qui était en première partie d'émission avec nous au téléphone, nous disait que cette Amérique-là, depuis de nombreuses années déjà, ne se parlait plus. Sébastien Mort, vous êtes toujours avec nous en studio, maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste des États-Unis et tout particulièrement des médias conservateurs. Vous avez beaucoup travaillé sur la radio, aujourd'hui aussi les réseaux sociaux. Les fameux talk shows, les libres antennes où l'auditeur est censé appeler en toute liberté, s'exprimer. Clara Wright, vous êtes jeune journaliste, vous avez passé quelques mois à l'université du Missouri, dans l'état du Missouri, une région rurale républicaine, et vous, Cerise Maréchaux, journaliste, vous avez séjourné pour des reportages sur la société américaine ces derniers mois à Austin, New York, Chicago, donc dans les villes éclairées, éduquées et progressistes démocrates. Si on revient à cette marche de femmes qui se prépare pour demain, qui sera en fait évidemment beaucoup plus large que sur la thématique femme, mais qui sera en fait une marche sur des protestations de sujets de société. Non, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Sébastien Mort, qui va s'exprimer sur le sexisme, sur le droit à l'avortement, bien sûr l'Obamacare.
Cela dit, je crois qu'effectivement, cette marche, elle est l'illustration de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la polarisation de la société, parce que on aurait pu s'attendre à ce que les femmes votent massivement pour Hillary Clinton et contre Trump sur la base des propos sexistes qui ont été tenus, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc les femmes qui vont marcher samedi sont la partie des femmes américaines qui sont opposées viscéralement à Trump sur ces questions-là, qui défendent le droit aux soins pour les femmes, à l'avortement, etc. Mais il y a une partie des femmes qui vont rester chez elles parce qu'elles ont voté pour Trump. Et finalement adhère à cette vision des rôles respectifs des deux sexes et ne participeront pas à cet élan de protestation, ça c'est sûr.
Est-ce que le droit à l'avortement est vraiment menacé?
Ben,
Il l'est déjà depuis plusieurs années. Il faut qu'on l'explique d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un droit qui est très très contraint. Donc, c'est un droit qui est garanti au niveau fédéral par une décision de la Cour suprême. Mais l'administration, la gestion des modalités de l'accès à l'avortement, c'est une prérogative des États.
Et si ce n'est que la jurisprudence de la Cour suprême, avec le fameux arrêt
Roe versus Wade,
indique que la femme est maîtresse de son choix durant tout le premier trimestre de la grossesse, et ensuite c'est l'État qui prend le relais.
C'est
pour
l'État
décider.
Qui prend le relais, et dans la foulée de Roe v. Wade.
Cette jurisprudence est au-dessus de la justice des États.
Elle garantit le droit à l'avortement. Ce qu'elle ne garantit pas, ce sont les modalités d'accès. Et dans un très très grand nombre d'États, il y a des lois qui contraignent très très strictement l'accès à l'avortement. Donc ça peut être par exemple le fait d'imposer des normes et des mesures d'hygiène qui sont drastiques.
D'acquérir la largeur des
couloirs, la taille de la salle où est pratiqué l'avortement.
Tout ça a été pensé politiquement, en fait.
Ça a été pensé pour restreindre l'accès à l'avortement. Et j'ajoute qu'il n'y a que 11% des comtés américains qui ont une clinique dans laquelle on pratique l'avortement. C'est-à-dire que 89% du territoire ne propose pas l'accès à l'avortement. Et en moyenne, une femme doit faire 40 km. Pour avoir accès à l'avortement. Donc c'est déjà un droit qui, en l'État, est restreint. Donc alors on imagine ce que ça peut donner si jamais le Roe v. Wade était abrogé, ça c'est sûr.
Oui, un droit restreint, évidemment, qui est moins accessible pour les personnes plus vulnérables, et ça a été prouvé, c'est plus difficile pour des personnes qui n'ont par exemple pas de véhicule de faire les kilomètres pour aller jusqu'à la clinique qui pratique des avortements. Moi, j'ai vécu quelques temps au Texas, ça joue beaucoup effectivement au niveau des régulations.
Les distances sont énormes. Hein.
Oui, alors les distances sont énormes, et puis les régulations, c'est intéressant parce que Trump, il est anti-régulation, mais par exemple dans un état comme le Texas, donc l'avortement, le droit à l'avortement existe, l'avortement est légal, mais l'État vient de voter des dispositions pour que dans le cas d'un avortement, des funérailles doivent être organisées pour le fœtus, ce qui est quand même très très embarrassant. C'est une manière de culpabiliser les personnes qui fait partie de cet arsenal pour fragiliser les choses. Et puis au niveau de la Cour suprême, il y a ces 9 juges. Donald Trump a la possibilité de nommer un juge à la Cour suprême pour remplacer un un juge qui est décédé il y a quelque temps. Les personnes auxquelles il pense sont des personnes foncièrement conservatrices.
Tout le monde pronostique, en tout cas, il nommera un juge conservateur opposé au droit à l'avortement.
Pour qui le droit à l'avortement, c'est une abomination. Et si ça balance du côté conservateur, il y a beaucoup d'États qui ont déjà annoncé qu'ils allaient rendre l'avortement illégal, comme le Dakota du Nord, du Sud, le Mississippi, la Louisiane. Donc il y a une vraie menace.
Ça pourrait... Alors, peut-être qu'on peut juste mettre une petite note d'espoir dans tout ça, parce que s'il nomme un juge conservateur, il remplacera un juge conservateur, donc l'équilibre sera le même qu'avant la mort de Antonin Scalia en février dernier. Et les deux juges qui sont les plus âgés, pour l'instant, n'ont pas indiqué qu'ils souhaitaient se retirer de la Cour suprême et sont en bonne santé. Donc on peut faire le pari que dans à échéance de 1 ou 2 ans, rien n'est susceptible de changer dans ce sens. Mais effectivement, si Trump était amené à remplacer plus d'un juge à la Cour suprême, là, on pourrait voir changer la dynamique et effectivement, peut-être une abrogation de Roe v. Wade. Et donc, dans ces cas-là, la prérogative reviendrait aux États. Et certains ont déjà dit que, de toute façon, ils interdiraient purement et simplement l'accès à l'avortement.
Sur, justement, ce paradoxe dans une mentalité ultra-libérale, je conduis ma vie comme je l'entends, sauf sur des questions d'avortement, où tout d'un coup, l'État décide de beaucoup de choses pour moi-même. Je voudrais qu'on parle des armes, bien sûr, parce que ça aussi, c'est depuis longtemps un vrai sujet de société. Clara Wright, vous, c'est un sujet qui a été qui est largement traité dans les médias locaux que vous avez fréquentés à l'université du Missouri.
Bah en fait, oui, car il y a une nouvelle mesure qui vient de prendre effet, donc le 1er janvier dernier, parce que maintenant on est autorisé dans le Missouri à porter des armes en public, enfin dans l'espace public, sans permis.
Y compris à l'université.
Pas à l'université, en fait. Il y a des espaces qui restent quand même protégés, notamment les tribunaux ou l'université. Mais à l'université, on a le droit d'avoir une arme cachée dans son véhicule.
Mais on n'a pas le droit... Sur le campus, donc, de l'université.
Mais on n'a pas le droit d'être avec une arme cachée sur soi. Et par exemple, et donc ça veut dire que maintenant, quand on se balade dans le Missouri, on peut rentrer avec une arme dans un immeuble, sauf s'il y a écrit « pas d'arme ». Sur l'immeuble. Ça participe d'une dynamique dans le Missouri qui a été pour plus en plus faciliter l'accès aux armes. Par exemple, avant c'était 21 ans, maintenant c'est 19 ans. Enfin, ça a changé. Et puis, c'est pas le seul État, le Missouri. Il y a 10 États qui mettent en place, qui ont mis en place cette nouvelle loi. Et le port est vraiment pour les personnes qui étaient pro-Trump dans le Missouri. Il y avait vraiment l'image qu'Hillary Clinton allait venir et prendre leurs armes. Et c'est quelque chose qu'on comprend parce qu'on est dans des zones rurales et que l'accès aux autorités et à la sécurité, les commissariats ne sont pas à côté des personnes qui vivent très isolées.
Mais pour autant, ce ne sont pas forcément non plus des endroits où il y a des taux de criminalité ou de délinquance plus élevés qu'ailleurs.
Mais pour répondre sur ça, c'est que, enfin, on a vu qu'après la mise en place de cette... parce qu'en fait, c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a quelques années que ça a baissé de 21 à 19 ans. Et en fait, on a vu un taux de morts dans les zones urbaines à cause des armes augmenter, mais pas dans les zones rurales.
Oui. Et en fait... le Missouri est un État rural.
Oui, il y a plus de 90% des zones qui sont rurales, mais les trois villes...
Comment ça va évoluer ce débat-là dans les années à venir sur les armes?
Alors, juste un dernier point. Moi, je pense que l'explication, elle est aussi culturelle, en fait. C'est-à-dire que pour des gens qui se sentent totalement écrasés par l'intervention centralisée de Washington, d'avoir le droit de porter une arme, c'est d'une certaine façon un des derniers droits qui leur reste et qui est garant un peu de leur fierté et de leur estime d'eux-mêmes.
Je suis vraiment d'accord vous, mais vraiment en parlant à des gens, par exemple j'avais une amie donc de 23 ans, quand elle a été à l'université pour la première fois, son père lui a mis une arme dans son appartement parce qu'une jeune femme seule, vivre seule, ça lui faisait peur. Donc son père, est militaire, donc il a toujours travaillé avec les armes et donc il n'en a pas peur, on va dire, enfin voilà. Mais aussi, c'est beaucoup plus complexe parce que un des candidats pour devenir gouverneur et démocrate était pro-armes. Donc en fait, il y a quand même dans certaines régions un sentiment d'insécurité, même s'il n'est peut-être pas justifié, mais il y a un sentiment d'insécurité et que les policiers ne seraient pas là.
Sur les armes, par rapport à cette psychologie masculiniste en fait, qui est montée ces dernières années contre Washington, contre la candidature d'Hillary Clinton, Comment vous voyez les choses?
Ça me paraît être concordant avec cette idée.
C'est caricatural ou pas?
Je ne pense pas que ce soit caricatural. Je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment attachés au droit de porter une arme, ne serait-ce que pour aller chasser. Et c'est constitutif de leur identité. Et ils entendent bien qu'on les respecte dans cette identité-là, qui est une identité rurale.
Et ce qui est intéressant dans la ville de Columbia, où j'étais, c'est que pendant longtemps, ça a été les hommes blancs qui en fait demandaient le permis. Donc avant que cette histoire de permis ne soit supprimée, parce qu'avant il fallait depuis 2003 avoir un permis. Maintenant, les autorités notaient qu'il y avait des hommes de couleur qui le demandaient et des femmes qui demandaient à être entraînées. Donc
Alors justement, parlons du racisme. Vous avez travaillé, Clara Wright, justement sur ce campus où les tensions sont exacerbées, même s'il y a peu d'Africains américains. Mais il faut dire aussi que de toute façon, il y a peu d'Africains américains qui fréquentent les campus, qui sont dans les campus universitaires. Mais il y a eu en tout cas des protestations et des manifestations extrêmement violentes ces deux dernières années.
En fait, elles n'ont pas été violentes parce que c'était des manifestations pacifiques de la part des étudiants.
Dans les mots, ça l'était.
Mais voilà, il n'y a pas eu de violence physique. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu aller dans ce campus. L'année dernière, il y a eu un vaste mouvement pendant un mois de protestation contre les discriminations raciales, car les étudiants noirs vivaient un racisme au quotidien, se faisaient insulter de nègre, de tels mots. Et comme le discours de haine n'est pas réglementé aux États-Unis, il n'y avait pas de sanctions, c'était compliqué. Et en fait, ils ont commencé à faire des interventions dans l'université, en parlant dans les cafétérias, en exprimant ce que c'était d'être noir sur cette université, d'avoir peur d'aller en cours, de s'exprimer, etc. Et en fait, ils n'étaient pas entendus, donc il y a eu un des jeunes hommes qui a commencé une grève de la faim. Ils n'étaient toujours pas entendus jusqu'à ce que l'équipe nationale de football, locale de football américain joigne le mouvement. Et là, il y a eu tous les médias nationaux qui ont commencé à s'y intéresser.
Ouais,
Et le président de l'université a dû démissionner.
Ouais, et avec donc un vrai déballage sur cette question. Aujourd'hui, on a beaucoup dit dans les réseaux sociaux que la droite alternative montait, donc une droite décomplexée. Quelle est la réalité de la propagation de cette idéologie raciste, de la haine, dans une Amérique multiculturelle, justement?
Je pense que c'est un phénomène qui est quand même marginal. C'est pas le réseau alt-right que vous citez. C'est un média alternatif qui est plutôt à la marge. Alors effectivement, qui s'empare des possibilités qu'offre Twitter, qu'offre ces modes de diffusion horizontaux. Je crois que ce qui a surtout fait leur notoriété, c'est que Trump s'en est emparé et qu'à certains moments, il a relayé des tweets qui avaient été produits par des gens affiliés à ce mouvement, et que son dernier chef de campagne était quand même Steve Bannon du site ultra-conservateur Breitbart, qui
est
lui-même proche de ce mouvement-là, des milieux de la suprématie blanche, et que donc c'est finalement un mouvement qui était plus ou moins à la marge, même plutôt à la marge, et qui a trouvé sa légitimité en fait dans le fait des gens proches du pouvoir.
Dans la mentalité américaine aujourd'hui, dans l'électorat de Trump, quelle est la réalité de cette idéologie que vous dites à la marge? Par exemple, quand Richard Spencer, qui est un peu le fondateur, le chef de file de cette droite alternative, d'ailleurs le mot est très contesté parce que ça lui donne une sorte de légitimité, droite alternative, ça fait assez propre sur soi, mais quand il dit mais les femmes rêvent toutes d'un homme fort, par exemple, est-ce que réellement c'est quelque chose qui a dû...
C'est très flamboyant comme propos, mais ça ne me paraît pas être représentatif de l'électorat de Trump. L'électeur moyen de Trump, je ne suis même pas sûr qu'il connaisse ce que c'est que alt-right. Et là encore, on revient sur des problèmes de couverture médiatique, c'est-à-dire qu'on s'empare des éléments les plus truculents, problème aussi de débat politique. C'est-à-dire que Hillary Clinton aussi a joué là-dessus, comme je l'ai dit au début, de prendre ces éléments-là et de les désigner comme étant représentatifs de cet électorat. Donc ça ne veut pas dire que c'est un phénomène qu'il faut négliger, mais je pense qu'il faut quand même le remettre à sa juste place, qui demeure un phénomène marginal. Alors pour l'instant, effectivement, on lui a donné une légitimité. Le fait que Steve Bannon soit... à deux bureaux du bureau ovale, ça pose question, ça peut susciter des inquiétudes, mais je pense pas que ce soit représentatif de l'électorat dans sa majorité.
Les électeurs de Trump ne sont pas Donald Trump. J'ai rencontré certaines personnes qui ont voté pour lui et qui n'ont rien à voir avec ce que représente Donald Trump ou le cabinet qu'il veut former. J'ai rencontré un homme, James, qui m'a dit, après quelques minutes de conversation, avoir voté pour Trump. Lui, pour lui, ce qui était là, l'unique priorité, c'était le retour de l'emploi. Parce qu'il représente complètement cette Amérique blanche, prolétaire, du Midwest. Ses conditions de travail se sont énormément dégradées. Il a aussi eu une tonne de problèmes personnels. Il y a probablement là une frustration qui a besoin d'être évacuée sur des boucs émissaires. Mais en même temps, il ouvrait des grands yeux quand je lui parlais du sexisme et du racisme de Trump et de sa haine envers les étrangers. Et il ne s'identifiait pas du tout à ça. Et je le croyais sur parole. Il avait l'air... il était avenant, il m'a offert un café, il était doux. Lui, ce qui lui importait, c'était le retour de l'emploi pour sa propre dignité.
Ouais, et une forme de stabilité dans la vie quotidienne aussi, dans cet environnement très dur économiquement.
Et puis je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, d'électeurs de Trump, qui ne sont pas dupes de tout ce spectacle, de tous ces paillettes, si on peut appeler ça comme ça, et qui en fait considèrent que il est en mesure de relancer le secteur industriel, de l'emploi industriel, l'emploi minier, mais que tout ce qui vient autour, le sexisme, le racisme, en fait, c'est simplement du show et ils ne prennent pas vraiment ça.
Alors justement, on va en parler. La présidence Obama était une présidence marquée par aucun scandale, aucun grand mensonge d'État. Les Américains savent que Trump ment souvent. Justement, quelle cuisine font-ils psychologiquement à l'intérieur d'eux-mêmes avec les mensonges de Donald Trump et surtout, quels espoirs place-t-il par rapport à ces annonces? On en parle dans quelques instants. Voilà, c'est tout frais, ça vient de sortir, c'est Arcade Fire, I Give You Power. Je le disais, la présidence Obama était une présidence qui n'a pas été marquée, entachée de scandales, de grands mensonges. Les Américains ont compris, y compris les électeurs de Trump, que Donald Trump mentait régulièrement, mais en même temps, il s'en accommode. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ?
Moi, je crois qu'il y a une réponse très, très évidente, qui est que c'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui vient pas de la sphère politique, qui vient de l'extérieur, et donc tout simplement on lui donne carte blanche parce que on estime que les règles qui s'appliquent à n'importe quel homme politique et qui auraient fait que n'importe quel homme politique aurait été sorti du jeu dans des primaires au premier dérapage, et on sait que lui il a accumulé les dérapages.
Le bénéfice du débutant finalement. Le bénéfice du débutant d'une certaine façon.
Je ne sais pas si c'est le bénéfice du débutant. Moi, je pense que c'est plutôt parce que justement, il incarne cette possibilité de redonner à l'Amérique une grandeur qui serait soi-disant perdu. Et je crois qu'il y a un deuxième élément, c'est aussi le contexte médiatique américain, l'environnement médiatique, qui est un environnement foisonnant, avec un nombre incalculable de chaînes de télévision, hertziennes, câblées, le net, Twitter, et en fait, tout ça produit une espèce d'effet de brouillage et de sidération, et permet à quelqu'un de dire une chose à 15h, de dire le contraire à 17h, et de dire qu'il ne l'a pas dit à 19h, et finalement, en fait, le mensonge, la réalité, ce sont des concepts qui n'ont plus vraiment de validité dans cette espèce de jungle médiatique que sont les États-Unis.
Je pense que aussi dans le vocabulaire utilisé par Donald Trump, parce qu'il est quand même très fort en communication, vous en parliez un peu plus tôt dans l'émission, c'est toujours assez vague pour que chacun puisse s'approprier ce qu'il a raconté, même ce qu'il a dit sur les personnes latino-américaines. Enfin, c'est assez étonnant de voir après un vote latino-américain, mais non, parce que les personnes étaient là, mais c'est pas de moi dont il parlait, c'est des méchants, en fait, des mauvais de l'autre côté de la frontière qui essayent de passer. Et en plus de ça, enfin, il y a quand même, chez les jeunes, et on le voit maintenant, enfin, sur Facebook, sur ce que les jeunes partagent, et c'est pas qu'aux États-Unis, il n'y a pas toujours une volonté de savoir ce qui est vrai, mais plutôt ce qui nous fait vibrer. Et je pense que, Donald Trump a réussi à faire vibrer pas mal de monde.
Il est dans le registre émotionnel.
Voilà, et à soulever, à inspirer. Alors, en fait.
Sur la construction. Et à faire ressentir en fait les choses plus que de les communiquer de façon rationnelle.
Voilà. Sur la construction du mur, dont on sait que ce serait des dépenses énormes, sur l'expulsion de 2 à 3 millions de sans-papiers, sur la nécessité de recruter forcément des agents des douanes supplémentaires pour mettre tout cela en place, quelles sont les attentes et la compréhension réaliste des Américains, Cerise Maréchaux?
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, alors, d'une part, le mur, c'est, on pourrait s'en réjouir d'ailleurs, mais c'est presque de l'esbrouffe, c'est-à-dire que Donald Trump dit « je vais construire le mur, je vais faire payer à Mexico », mais en fait, le mur existe déjà, il a été construit au fil de plusieurs années, et notamment décidé par Bush, mais construit sous les mandats Obama, moi j'y suis allée au pied du mur, il n'est pas continu, parce qu'il y a des endroits où la géographie, en fait, permet que le mur n'existe pas, mais le mot « mur » n'était pas employé par les politiciens jusqu'à présent. Donc la nouveauté de Trump, encore une fois, c'est le mot, c'est le fait d'utiliser le mot mur. Et beaucoup d'Américains, la plupart des Américains ne savent même pas que ce mur existe déjà. En fait, à moins d'être frontalier, militant, journaliste ou immigré, il n'y a pas la conscience de la réalité de ce mur. Et en plus, même si ce mur était à construire, il coûterait très cher. Donc ça, finalement, il n'y a pas vraiment de réalité derrière ça. Par contre, le risque d'expulsion de peut-être même beaucoup plus que ce que vous avez dit, ça pourrait être jusqu'à 11 millions de personnes sans papier aux États-Unis. Il y a à souhaiter qu'ils ne tiennent pas cette promesse, mais la menace est vraiment là, les personnes sont terrorisées.
Parce qu'effectivement, il suffirait d'un décret présidentiel pour que ces gens-là soient... Leur légitimité sur le territoire soit remis en cause.
Sur l'immigration, justement, on le disait au début de l'émission, il y a ces deux Amériques qui se font face ou qui se tournent le dos, des familles qui se déchirent, notamment sur ce thème de l'immigration, à l'intérieur même de familles. Cerise, vous qui connaissez des familles qui ne se parlent plus.
Sur le thème, pas seulement sur le thème de l'immigration, mais sur toutes les atteintes qu'une présidence Trump pourrait faire à des personnes vulnérables, que ce soit pour les femmes, pour les minorités, les immigrés, etc. Des vraies scissions dans les familles, parmi pas tellement des cercles d'amis, parce qu'en général, les cercles ne se mélangent pas. Mais moi, je connais des personnes qui, aujourd'hui, sont incapables d'avoir un dialogue avec d'autres membres de leur famille. Ils ne peuvent pas partager un repas parce que il n'y a pas le même vocabulaire, il n'y a pas la même grille de lecture, il y a des personnes qui se fâchent. Moi, j'ai une amie pour vivre, en fait, elle loue dans sa maison différentes chambres à des visiteurs pour quelques jours ou quelques semaines. Et une personne qui a vécu chez elle plusieurs mois a voté Trump. C'est un ami à moi également.
Elle s'est fait expulser par votre ami, c'est ça?
Il s'est pas fait expulser, il s'est un petit peu gardé de le dire. Mais ce qui est étonnant, lui c'est un jeune homme blanc, mais il est ingénieur informatique. Il est, comme on dit, college educated, il a fait des études supérieures. Il a voté pour Trump par haine du gouvernement, par haine de Hillary, par haine de tout ce qui est régulation, ingérence de l'État dans la vie privée. Mais cette autre personne, donc la propriétaire de la maison, elle est très libérale, elle est absolument dégoûtée, offusquée par Trump et ce qu'il représente.
Vous dites libérale, c'est-à-dire progressiste.
Progressiste, pardon. Aujourd'hui, elle ne veut plus voir cette autre amie, Ryan, qui a voté pour Trump. Il y a une vraie incompréhension, elle ne peut plus l'inviter à dîner. Elle se sent même trahie.
au sujet des familles, enfin dans le Missouri, j'ai pu suivre une famille avant Thanksgiving et après Thanksgiving, puisque c'était quand même assez ironique que cette fête familiale soit seulement deux semaines après l'élection. Et cette jeune femme donc me racontait que ses parents avaient voté Trump, elle démocrate, et elle avait dans sa famille des cousins homosexuels qui vraiment voyaient ses parents qui comme des traîtres, en fait. Et il les rejetait complètement. Et elle en souffrait énormément parce que elle, comme elle continue de vivre dans le Missouri, qu'elle a beau être à l'université, elle connaît cette autre Amérique. Elle disait que c'était très, très douloureux de voir tous ces gens parler des électeurs de Trump comme des idiots, comme des personnes racistes, etc. Parce qu'elle, c'était pas ses parents, c'était pas sa prof de lycée.
Mais alors, justement, est-ce que cette division aujourd'hui n'est pas plus profonde que ce qu'elle a toujours été? Puisque vous nous disiez finalement, Sébastien Mohr, qu'au début de l'émission, qu'elle avait toujours existé, cette division.
Oui, mais en fait, je crois qu'elle elle existe et là, elle a été exacerbée parce qu'on a qui est extrêmement clé. Moi, je crois qu'elle le sera au-delà de Trump, parce qu'effectivement, on a deux Amériques. Il y a une Amérique qui se diversifie sur le plan ethnique.
Avec d'ailleurs, en 2050, l'homme blanc américain sera minoritaire.
Mais en 2020, les enfants non blancs seront plus nombreux que les enfants.
Ouais, ça sera le mot de la fin. Donc, la démographie qui pourrait finalement apporter des réponses. Merci à vous, Sébastien Mohr, maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste des États-Unis. Et merci à vous également, Clara Wright, jeune journaliste. Vous avez travaillé à l'université du Missouri, Cerise Maréchaux. Vous avez séjourné pour vos reportages à Austin, Chicago, New York. Et merci à Guillaume Debray, journaliste à TF1 qui était en ligne avec nous et qui a publié Washington, comment l'argent a ruiné la démocratie américaine. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Camille Nérand. Demain, 7 milliards de voisins. Non, ça sera lundi. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, et ce sera bien sûr sur RFI.
La 5e édition de l'Africatio Forum.